être de retour parmi vous. Oui, ça fait un certain temps. Enfin, le temps passe trop vite. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais je me sens privilégié d'être avec vous ce matin. Qu'est-ce qu'il est bon, hein? Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bon de louer le Seigneur comme ça, ensemble, de tout son cœur. J'aime bien quand on est spontané. J'aime bien quand on loue le Seigneur des profondeurs de notre être. Je pense qu'il faut se sentir libre, vraiment d'être soi-même lorsqu'on loue Dieu. Et là, j'ai senti ce matin que vous étiez de tout cœur avec le Seigneur, comme bien sûr toute votre foi, que je vous croise ici, dans cette chapelle. Donc merci de me donner ce privilège de pouvoir être avec le Seigneur et avec vous ce matin dans cette chapelle. Ce matin, j'ai à cœur de vous lire un passage dans la deuxième épître de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire au chapitre 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Donc 2 Timothée 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Voilà, lisons. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et bien sûr la femme aussi, l'homme et la femme de Dieu soient à la hauteur, parfaitement équipés pour toute œuvre bonne. Je t'adjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement le ministère. Oui, Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence ce matin. Esprit Saint, nous voulons te remercier parce que tu nous as conduits dans un beau temps, Seigneur, à ta gloire, par le chant, par les prières. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir ainsi nous adresser à toi. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir entendre parler de toi. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir aussi t'entendre encore parler par ces paroles qui viennent d'être lues ce matin. Oh Seigneur, enseigne-nous, touche nos cœurs, change nos vies. Encore ce matin, nous voulons te prier en ton nom. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, eh bien, nous pouvons constater une chose. C'est que le Dieu de la Bible est ce Dieu qui aime se révéler à l'humanité tout entière. Il est ce Dieu qui est lumière, n'est-ce pas ? Il est lumière. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres, dit l'apôtre Jean. Jésus dit, je suis la lumière du monde et nous voyons ici dans toutes les Écritures, eh bien un Dieu qui désire à ce point se faire connaître à tous. Et si il peut arriver que certaines personnes disent, je ne veux pas ou je ne connais pas Dieu, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne veut pas faire ce pas vers un Dieu qui est rempli d'amour pour lui, pour eux. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui désire se faire connaître. Il est lumière. Il aspire à faire briller sa lumière jusque dans les ténèbres de nos vies. Dieu se révèle de bien des manières dans les Écritures, n'est-ce pas ? Il est ce Dieu qui agit. Il agit concrètement. Au commencement, eh bien, il agit, il crée toutes choses, il crée l'univers en fait tout entier. C'est là qu'il montre sa puissance, c'est là qu'il montre sa divinité, il montre là qu'il est à l'origine de toute la création. Dès le début, Dieu agit. Il fait sortir Abraham du pays d'Our pour le conduire vers cette terre dite promise.
Il y a celui qui va sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, là où il est en esclavage depuis plusieurs centaines d'années. Dieu est actif, il est à l'œuvre, parce qu'il sort même ce pays, enfin, ce peuple qui est en exil à Babylone, il le sort, il le ramène à Jérusalem, et c'est là qu'il se remet à l'écoute en fait de la parole de Dieu. Dieu agit. Il agit de manière exceptionnelle par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie Jésus le Christ sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie à jamais. Dieu désire se faire connaître à l'humanité tout entière et il le fait d'une manière parfaite au travers de la venue, de la vie, de la mort, de la résurrection du Christ. Et Dieu agit. Il agit par l'Esprit. Le Père, avec le Fils, envoie l'Esprit pour que par la suite, eh bien, tous ces premiers chrétiens, tout timides et avec tellement peu de formation, eh bien, se bougent et sortent de leur mur pour qu'ils fassent connaître le Christ là-bas comme ailleurs. Nous croyons en un Dieu qui se révèle, en un Dieu qui désire se révéler à toute l'humanité. On voit au travers des Écritures comment il agit, mais aussi comment il parle. Lorsqu'il crée toute chose, il parle. C'est donc par son souffle que toute chose existe. Et puis par la suite, il continue de parler. Adam et Ève et toute cette descendance, mais surtout Abraham, avec ses promesses, que nous pouvons lire dans Genèse 12, Dieu parle. Il lui dit, ta descendance sera nombreuse, tu recevras une terre, tu seras béni, et au travers de ta descendance, toutes les nations seront bénies. Dieu parle. Il parle par Moïse, au travers de ce buisson ardent. Il le prépare pour cette sortie, enfin, il le prépare dans le reste du peuple pour cette sortie d'Égypte. Et même au cœur de la tempête, lorsque le peuple est en exil, eh bien, Dieu parle. Dieu parle au travers du prophète Ézéchiel, par exemple, et il parle. Il dit qu'il est là. Et que ces eaux desséchées vont revivre par la puissance du souffle de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Dieu parle. Lorsque l'Esprit est venu sur les premiers chrétiens. L'Esprit a fait en sorte que Pierre, enfin, commence à proclamer l'Évangile avec une telle autorité jamais vue auparavant dans la vie de cet homme. Voilà. Ce Dieu de la Bible est un Dieu qui désire se révéler à l'humanité tout entière. Raison pour laquelle, eh bien, nous ne pouvons que agir. Nous ne pouvons que vouloir agir et parler pour que le Christ soit annoncé, n'est-ce pas? Et là, dans le passage que nous venons de lire, un passage où Timothée se pose un certain nombre de questions par rapport à son avenir, parce qu'il semble que la vie est devenue très difficile à Éphèse, que cette église d'Éphèse est devenue extrêmement pénible, et il se dit, mais peut-être vais-je tout abandonner parce que ce ministère est difficile. Et on voit que dès le début du chapitre 3, eh bien, Paul essaye de dire, mais non, écoute, Timothée, c'est normal tout ce qui se passe, parce que même dans les églises, dans les derniers jours, eh bien, surgiront des temps difficiles, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, jusqu'à garder la forme extérieure de la piété, tout en reniant la puissance. Donc sache que nous sommes dans ces derniers temps, dit l'apôtre Paul. Et donc, il est tout à fait normal qu'en tant que ministre de Dieu, tu traverses des moments extrêmement difficiles. Par la suite, en fait, dans ce chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, Paul fait part de son expérience personnelle. Il dit, mais souviens-toi de mon enseignement, mais surtout de ce que j'ai dû endurer à Antioche, à Iconie, à Lystre. Et à chaque fois, le Seigneur m'en a libéré. Ici, il est donc, au début du chapitre 4, prêche la parole. Proclame la parole. Voilà une tâche simple, n'est-ce pas, qui nous est ici confiée en tant que chrétiens. Une tâche tellement simple, tout simplement dire la parole. Au début du chapitre 4, il dit « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui juge les vivants et les morts et au nom de sa manifestation et de son royaume. » Voilà une expression qui a une connotation légale prononcée dans une cour de justice et il est demandé aux témoins de témoigner sous serment. Et Paul dit à Timothée « Proclame la parole ». Alors, lorsqu'on dit « proclame la parole », ça ne veut pas simplement dire « parle ici Dieu de la chair et dit les choses aux gens qui sont dans l'église ». Non, « proclame la parole », on peut proclamer la parole autour d'un café, au bord du lac. Enfin, il y a bien des manières de partager, de dire ces paroles, de dire l'évangile. Donc, voilà, ce n'est pas un passage qui est juste destiné aux prédicateurs, comme certains pourraient le penser, mais c'est une parole qui est destinée à chaque chrétien. Proclame la parole. Voilà ce qu'il dit à cet homme qui a besoin d'être renouvelé, relevé, reboosté. Il a besoin d'entendre cela. Oui, mais il appelle à cette tâche solennelle. Prêche la parole. Cette parole qui a été soufflée par Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il dit, en fait, dans le passage en fait, de ce chapitre 3 qu'on a lu aussi ensemble, eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu, eh bien, prêche cette parole-là, prêche cette foi chrétienne, prêche la sainte doctrine, prêche la vérité, prêche la foi, enfin, voilà tout ce qu'il dit lorsqu'il fait référence à la parole. Donc, il s'adresse à ce Timothée, qui doit être tel un héros. Vous vous souvenez de cette époque où le héros était un serviteur du roi, ou du seigneur du village, ou de la ville, et il devait aller sur la place de la ville, et il ne pouvait que dire les paroles du seigneur, enfin de son chef, mais rien de plus, ni rien de moins. Même chose pour nous. Si nous prêchons la parole, nous ne prêchons que les paroles qui ont été inspirées de Dieu, que ces paroles que nous trouvons dans les Écritures. Nous sommes appelés à prêcher ni plus ni moins. Prêche la parole. Sois ce héros, tel que celui sur la place du marché, qui transmet fidèlement les paroles de son maître. Voilà notre appel. Et c'est une tâche simple, mais à la fois compliquée, parce qu'on est tellement tenté d'en dire beaucoup plus que ce que dit le maître. La parole. On rend même parfois la parole un peu compliquée, parfois, lorsqu'on veut témoigner. Mais non, restons simples. Soyons comme ce héros de l'époque qui ne faisait que transmettre fidèlement le message de sa majesté. Puis il dit, prêche la parole tout en l'enseignant. Il ne suffit pas juste de répéter des versets, comme on est parfois bon à le faire, ou comme on a été bon à le faire il y a X années, mais prêche la parole tout en l'enseignant, dis la parole, mais explique ce qu'elle veut dire, sinon ces gens vont nous prendre pour des fous, quoi. Donc, voilà, prêche la parole tout en l'enseignant, dit-il. Et puis, il dit un peu plus tard, fais l'œuvre d'un évangéliste, donc prêche ses paroles tout en enseignant et tout en revenant au cœur de l'évangile, le Christ crucifié et ressuscité. Et lorsqu'on prend un autre passage de la Bible, eh bien on peut même voir qu'il y a un autre verbe qui est utilisé, c'est surtout dans la première épître de Jean, il y a une autre manière de prêcher la parole, c'est au travers du témoignage. Jean fait référence à ce qu'il a vu et entendu. Il fait référence à la transfiguration, lorsqu'il a vu le Christ dans sa gloire. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à dire en fait, que le Christ s'inscrit dans notre histoire, s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu de création mythologique venant d'un être humain, mais c'est une personne qui a réellement vécu parmi nous et qui était avec Dieu et qui était Dieu, dit l'apôtre Jean. Donc prêche la parole. Prêche-la tout simplement. Prêche-la déjà ici. Prêche toute la parole, pas juste nos passages préférés, hein, comme on aime parfois le faire en tant que prédicateur. Non, on prêche toute la parole. Je me souviens, il y a quelques années, donc avec mon collègue, j'étais en train de planifier tous les thèmes, en fait, pour l'année. Et puis, juste en fait deux, trois semaines avant, je me dis, ah, mon collègue, il a 2 Pierre 2, ah, c'est sur les faux prophètes, oh, tant mieux, je ne vais pas prêcher là-dessus. Qu'est-ce que j'étais content. Mais 3 semaines plus tard, je me dis, ah zut, c'est Matthieu 5, et je prêchais sur le divorce. Ah ben zut alors. Mais qu'est-ce qui est difficile de prêcher toute cette parole, mais voilà ce à quoi nous sommes appelés. Déjà en tant que prédicateur, prêcher toute la parole de Dieu, même les passages qui nous dérangent. Eh bien, en tant que croyants, en tant que chrétiens, qui sommes appelés tous à témoigner, eh bien, il nous faudra parfois répondre ou parler de certaines questions, en fait, délicates, dont nous parle la Bible. Et il nous faudra être honnête, mais rempli d'amour, bien sûr. Mais voilà, en fait, la première chose. Prêche la parole. Proclame la parole. Le faites-vous, le faisons-nous. Quand? Comment? La question que je vous adresse ce matin. Une deuxième chose, ici sur laquelle le Seigneur insiste au travers de l'apôtre Paul. Il dit, prêche la parole et intervient en toute occasion favorable ou non. On a parlé d'une tâche simple, prêche la parole, ben oui c'est simple, il faut juste dire les choses, ni rien, enfin, en ajoutant rien d'autre. Deuxièmement, il y a là une tâche permanente à laquelle nous sommes appelés. Prêche la parole et intervient en toute occasion favorable ou non. Mais pourquoi une telle insistance? Pourquoi faut-il déjà prêcher la parole? Ces paroles qui sont dans les Écritures, pourquoi faut-il le faire? Eh bien, Paul dit, parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Ce ne sont pas des lettres intéressantes, des passages intéressants, d'un livre intéressant. Ce n'est pas juste un livre de littérature avec lequel on a affaire en tant que croyant, en tant que chrétien. Mais ce sont des paroles qui ont été soufflées sur un certain nombre de personnes par Dieu durant une époque qui a duré environ 1500 ans. Et bien sûr, certains vont me dire ce matin, oui, mais David, les Saintes Écritures, c'est surtout, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oui, mais non, comme on dirait lorsqu'on discute avec des gens. Oui, mais non, oui, bien sûr, heureusement, tous ces premiers chrétiens étaient surtout, d'abord de racines juives, et ils avaient cette connaissance des Écritures, la loi et les prophètes. Mais nous savons déjà qu'à cette époque, il y avait des lettres qui circulaient, il y avait des évangiles même qui circulaient. Il y a un certain nombre de témoignages. Aussi, je pense à Pierre dans sa deuxième lettre, à la fin de sa lettre, qui dit oui, il y a Paul qui a écrit, et certains disent que ses paroles sont un peu compliquées et ils s'en servent d'une manière assez maladroite. On voit déjà qu'il y a des lettres qui circulent et qui sont reconnues comme paroles de Dieu. Mais je n'ai pas le temps de vous lire tous les passages qui font référence à cela. Vous lirez vous-même, c'est facile à trouver. Enfin, plus ou moins. Donc ces lettres circulent comme, par exemple, la première lettre aux Thessaloniciens. C'est la première qui circule dans toutes ces églises. Et probablement déjà un évangile ou l'autre. Et c'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que notre canon du Nouveau Testament, par exemple, il n'a pas été décidé par des évêques au IVe siècle, ou bien par l'empereur Constantin, comme un auteur qui a écrit un roman très connu, Da Vinci Code, disait. Non, rien à voir! Tous ces livres que nous trouvons dans le Nouveau Testament aujourd'hui bien tous ces livres circulaient déjà à l'époque. Et les évêques du IVe siècle ont fait entériner ce qui était déjà devenu une évidence depuis 300 ans finalement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Dieu a voulu qu'il s'y trouve. Il faut essayer de comprendre une chose, c'est que Dieu a placé sa parole dans la bouche et dans les esprits humains d'une telle manière que leurs pensées et leurs paroles étaient simultanément et intégralement les leurs à ceux qui ont écrit et les siennes à celles de Dieu. C'est un mystère et c'est un miracle, la foi. Hein? Mais voilà ce que Paul essaie de dire ici, dans ce passage. Les Écritures, ce que nous appelons aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, la Bible est ce livre que le Seigneur avait envie que nous ayons en notre possession pour que nous puissions le connaître personnellement et vivre avec lui, pour lui, par lui. Donc nous sommes appelés à prêcher de manière permanente, à proclamer de manière permanente ces paroles parce que toutes ces paroles ont été soufflées par le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut déjà se dire aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il faut la proclamer parce que sans cela, les gens ne vont pas réaliser leur situation de séparation en fait avec Dieu. Ils n'auront pas l'occasion d'obtenir le pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ, par sa grâce, par le moyen de la foi qu'il nous donne comme un cadeau pour que nous puissions répondre à son appel, intégrer sa famille. Donc oui, c'est aussi pour cela que nous sommes appelés à prêcher cette parole. Et vous savez à quel point il y a tellement de gens qui sont écrasés aujourd'hui par de tels poids de culpabilité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent vraiment être pardonnés de toutes leurs fautes et de tout ce qui les séparait de Dieu. Je me souviens d'un jeune, 18 ans, Salvatore. Quelqu'un l'a invité pour un camp pour étudiants chrétiens. Il est venu au camp alors qu'il n'avait jamais fait d'études, même pas un apprentissage. Mais en fait, c'était un trafiquant de drogue, ça on l'a su après seulement. Mais voilà, c'est pas grave. Mais bon, cet homme a participé à tout ce camp. Il n'a absolument rien compris à tous les exposés qui ont été donnés par l'orateur. Rien. Mais lorsqu'il est rentré de ce camp, dans la voiture, il a posé la question au pasteur qui conduisait et puis il lui a dit... Est-ce que je peux vraiment être pardonné de tous mes péchés? Tous? Et le pasteur lui a dit, oui, tout est péché. Et cet homme est devenu un évangéliste hors pair. 3 semaines après, il voit une salle en fait, dans la ville où il résidait, et tous ses amis trafiquants de drogue eh bien, venaient tous les vendredis pour entendre l'évangile. Et c'était incroyable parce qu'ils venaient tous avec des Mercedes, des BMW, et puis des voitures encore beaucoup plus relevées. Donc même moi, en tant que simple pasteur avec ma petite Lada, eh bien, j'étais mal barré. Mais c'était incroyable de voir tous ces gens qui étaient là, tout simplement parce qu'un jour, un homme a compris que grâce à la venue, la mort et la résurrection de Jésus, et par le moyen de la foi que Dieu lui donne en Jésus, il pouvait être pardonné de toutes ses fautes. Donc c'est pour ça qu'il faut dire la parole, c'est pour ça qu'il faut la proclamer. Et puis, il faut la proclamer parce que, comme le dit le texte, le Seigneur revient bientôt. Le Christ revient bientôt. Ce n'est pas un mythe. Comme le dit, comme doit le dire encore en fait l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. Non, ce n'est pas un mythe. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous tous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, à la conversion. Je suis sûr que si vous connaissiez, bon c'est pas possible, hein, mais si vous connaissiez la date et l'heure précise du retour du Christ, je suis sûr que vous partiriez tous vers vos amis, vers vos proches, pour les supplier de donner leur vie à Dieu. Mais là, aujourd'hui, on se dit, ah, ça fait 2000 ans, non? Donc j'ai encore le temps. Mais qu'est-ce que vous en savez? Que vous avez encore du temps pour parler de l'Évangile à toutes ces personnes que le Seigneur place sur votre chemin. Donc voilà pourquoi il nous faut dire l'Évangile de manière permanente. Je me souviens toujours de cette histoire du fondateur de l'armée du salut, William Booth, qui a dit un jour ceci. Il a dit, j'envoie tous mes officiers, j'aimerais bien envoyer tous mes officiers en enfer pour qu'ils sachent ce que c'est vraiment l'enfer et qu'ainsi ils soient poussés à dire l'Évangile en toutes circonstances. Donc voilà, il faut absolument dire l'Évangile en toutes circonstances parce que le Christ revient et il revient bientôt et il reviendra même peut-être bien plus tôt que vous le pensez. Et puis, il nous faut dire l'Évangile parce que dans les derniers temps, certains dans les églises ne supporteront plus la saine doctrine, dans l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui, enfin je trouve, hein, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui dans les églises d'apporter tout simplement déjà une prédication biblique? Qu'est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'attirer les gens dans des groupes de maison ou dans des rencontres hebdomadaires où la Bible est au centre, où on prend le temps d'étudier la Bible? Qu'il est difficile même d'étudier la Bible avec un peu de sérieux. Certains me disent, mais David, mais tu te rends compte, mais ça prend du temps, non? Mais oui, mais tu prends temps avec le Seigneur, non? Et puis le Seigneur, c'est quand même ton Dieu, n'est-ce pas? Donc, voilà notre défi. Continuer déjà dans nos communautés, mais à tout endroit où des chrétiens se retrouvent, et bien qu'ils puissent continuer à étudier avec sérieux toutes les Écritures, afin que ces hommes et ces femmes qui fréquentent nos communautés puissent encore et toujours avoir faim et soif de ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Une tâche simple, proclamer l'Évangile. Une tâche permanente, intervenir en toute occasion, favorable ou non. J'aime bien les gens qui me disent parfois, mais David, tu sais, j'ai senti que c'était pas le moment. Bon, ben, ça vous est arrivé certainement. Moi, ça m'est aussi arrivé de dire, tu sais, je pense que avec ma mère l'autre jour, c'était pas le moment. Alors que ma mère n'attendait que je lui parle que de Dieu. Osons, dans l'amour, le faire en toutes circonstances. Enfin, dernièrement, nous avons confié une tâche sérieuse. Parce que le texte se dit, donc à la fin du chapitre 3, le texte nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient à la hauteur, parfaitement équipés pour toute œuvre bonne. Quel défi, n'est-ce pas, lorsque nous partageons l'Évangile, lorsque nous proclamons la parole, que ce soit ici du haut de la chair, mais aussi en d'autres circonstances. Quel défi! Quel défi de parfois devoir reprendre des gens, de réfuter certains arguments. Quel défi! Mais voilà ce à quoi nous sommes quand même appelés en tant que croyants. Nous sommes appelés d'un côté à donner un discours qui serait considéré un peu comme intellectuel alors qu'il ne devrait pas l'être, mais un discours qui s'inscrit, qui s'enracine, enfin dans la parole, mais à la fois Il faut que cette parole, non seulement elle soit fidèle aux Écritures, mais il faut qu'elle soit claire. Il faut que les gens puissent comprendre ce qu'on leur dise, n'est-ce pas ? Nous, lorsqu'on forme des prédicateurs en Afrique ou même ici en Suisse, eh bien, on dit, il faut... Enfin, on pose trois questions. On dit, est-ce que la prédication était fidèle au passage ? Deuxièmement, est-ce que la personne était claire, autant dans sa manière de s'exprimer que dans sa structure, et puis alors ainsi de suite. Parce qu'on parle très facilement un certain langage que des gens qui ne fréquentent pas l'église habituellement ne comprennent pas. Et puis troisièmement, est-ce que cette prédication était pertinente ? Est-ce qu'elle s'inscrit dans notre présent ? Est-ce qu'elle nous pousse ? Est-ce qu'elle nous conduit à agir au quotidien ? Et je dis toujours aux gens, nous ne sommes pas là pour tout simplement transmettre de la connaissance. Mais nous sommes là pour que des vies soient transformées dans tout ce que nous partageons de l'Évangile. Ce que nous visons, c'est que des vies soient transformées et non pas que nous ayons gagné ou perdu un argument. Quel défi, n'est-ce pas ? Voilà, d'entrer dans un tel appel. Et le texte encore nous dit qu'il nous faut agir avec patience. Prêche la parole en te montrant toujours patient dans ton enseignement. En tant que parent, par exemple, j'aimerais tellement que mes enfants qui entendent l'Évangile presque tous les jours ou une fois tous les deux, trois jours, mais j'aimerais tellement qu'ils répondent tout de suite à l'Évangile. Et puis le Seigneur m'a dit, non, tu restes patient. Tu ne vas pas les mettre sous pression tous les jours quand même. Alors depuis, j'ai changé, donc c'est bien. Ah, mais voilà, reste patient dans ton enseignement, même s'il te faut réfuter, reprendre, encourager. Parce qu'on peut même encourager quelqu'un avec la parole, même s'il n'est pas croyant. Enfin voilà, ce matin, nous sommes invités tout simplement à proclamer cette parole que le Seigneur nous a transmise une fois pour toutes. Cette parole qui va de Genèse à Apocalypse. Cette parole qui converge vers le Christ, crucifié et ressuscité, qui intercède en notre faveur et qui agit aujourd'hui au travers de l'Esprit Saint dont il témoigne. Ce matin, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de proclamer ces paroles tel ce héros qui était sur la place du marché et qui se contentait de simplement transmettre toutes les paroles de son maître. Prêchons cette parole de manière permanente, en toute occasion, favorable ou non, mais toujours dans l'amour. Et puis troisièmement, prêchons cette parole avec sérieux. En fait, ce n'est pas un jeu de témoigner. Comme ce n'est pas un jeu de prêcher. Si j'avais pu faire autre chose en fait, dans ma vie que prêcher, j'aurais fait volontiers. J'ai même supplié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu me mets dans un bureau missionnaire et ça me convient très bien. Et puis il m'a dit, ah non, tu seras appelé à prêcher, à proclamer la parole. Et nous sommes tous appelés à proclamer la parole de manière très différente. Et sachant ceci, c'est que nous ne sommes pas tout seuls dans cette prédication de la parole, dans cette proclamation de la parole. Souvenez-vous de l'Esprit Saint qui est venu sur tous ces premiers chrétiens qui avaient pourtant très peu de formation, qui avaient très peu confiance en eux, qui se sentaient sous beaucoup de pression, que cela soit du côté... Enfin, en fait, c'est ça, que cela soit dans la cause des Juifs ou bien des Romains, ils se sentaient beaucoup sous pression, mais l'Esprit est venu. Pierre a été transformé parce que sa prédication était extraordinaire. Et tous les autres ont fait de même. Et les pharisiens, à cette époque, se disaient, mais comment se fait-il que ces gens parlent avec une telle autorité ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est incroyable, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. L'Esprit était en eux, comme l'Esprit Saint est en nous. Laissons-lui toute la place, afin que cette parole soit fidèlement proclamée, clairement proclamée, et proclamée. proclamée de manière pertinente pour que les gens puissent encore et toujours redécouvrir à quel point ils sont aimés, aimés de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Oh Seigneur, tu nous appelles à un beau défi. Pour nous, c'est un tellement grand défi, Seigneur. Tu vois qu'il y a parfois tellement peu de gens qui ont placé leur confiance en toi. Et pourtant, tu nous rappelles encore ce matin, au travers de cette parole, que tu nous invites à entrer dans ta mission et à entrer dans cette mission toute particulière de te faire connaître dans l'amour, avec patience, mais de manière toute simple, de manière permanente et sérieuse. Oh Seigneur, bénis cette communauté. Tu vois, elle persévère dans la foi. Quel bel exemple. Eh bien, encourage-la encore. Souffle sur elle. Et permets-lui encore de témoigner avec ton autorité. Et que beaucoup de vies soient touchées, Jésus, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, au travers de mes frères et sœurs ici, dans cette communauté. Je veux te le prier. En ton nom, Amen.